Et c'est parti.
Oui, se está grabando de nuevo.
D'accord.
Asegúrese de que
Ça
todos
y est.
sepan que les está grabando.
OK. D'accord.
Ok. Su tesis doctoral trata sobre el aprendizaje en grupo. Aquí tenemos el libro. ¿A qué conclusiones llegó?
Alors, puisque vous avez le livre, vous connaissez déjà un petit peu la réponse à la question que vous posez. La conclusion principale, en tout cas celle qui a été retenue par mes collègues universitaires, c'est qu'il ne suffit pas de mettre des élèves en groupe pour que la coopération s'organise de manière spontanée. Au contraire même, si on laisse des élèves en groupe et que on leur demande de réaliser une tâche, eh bien, ce qui se produit spontanément, c'est la répartition des rôles entre concepteurs, exécutants, chômeurs et gêneurs. Il y a une sorte de dynamique naturelle qui s'installe, qui fait que ceux et celles qui ont des compétences expriment ces compétences et que ceux et celles qui sont marginalisés parce qu'ils n'ont pas de compétences ne progressent pas et ne bénéficient pas du travail collectif. Il y a une forme de satisfaction narcissique pour eux dans la mesure où ils s'identifient au résultat, mais ils s'identifient au résultat en compensation de leur frustration dans la fabrication de ce dernier. C'est parce qu'ils n'ont pas participé que le résultat est réussi. Et donc ce que j'ai montré là et qui a donné lieu ensuite à de très nombreux travaux un petit peu partout autour de la question de la coopération, c'est qu'il ne suffit pas de mettre des enfants ensemble et de leur dire travailler ensemble pour que la coopération s'opère. Ce que j'ai montré depuis, que je n'avais pas montré dans ma thèse, c'est que la répartition des rôles entre concepteurs, exécutants, chômeurs et gêneurs, celui qui écrit, écrit, celui qui sait dessiner, dessine, celui qui parle bien, etc. Cette répartition des rôles a une fâcheuse tendance à s'enkyster chez les individus. Et au fond, on parvient un peu à l'inverse de ce que l'on souhaitait, puisque en général, on promeut l'idée de coopération avec un arrière-fond l'idée d'une émancipation. Et en réalité, c'est le contraire de l'émancipation qui se passe, c'est l'enfermement d'un sujet dans un donné préalable et une compétence préalable, et non pas le dépassement de cette compétence préalable qui se produit au cours de ce travail. Alors ça, c'est la partie négative. Dans la partie positive maintenant, j'essayais de montrer dans cette thèse quelles étaient les conditions pour qu'il y ait véritablement coopération au sein d'un groupe, et pour que ce groupe bénéficie à chacun des individus à travers à la fois l'apport de chacun et la réussite de tous. J'ai donc utilisé pour cela les travaux de Jean Piaget et d'Anneli Péré-Clermont autour de la notion de conflit socio-cognitif, et je me suis demandé quelles étaient les conditions pour qu'il y ait un conflit socio-cognitif dans une interaction entre pairs. J'ai travaillé sur les différents types de conditions. Il y a des conditions d'homogénéité structurelle, il faut que les gens puissent se parler, et en même temps d'hétérogénéité conjoncturelle, il faut que les gens aient quelque chose de spécifique à dire chacun de leur côté. Tout cela, je l'ai travaillé à travers quatre types de familles d'opérations mentales qui renvoient pour moi à quatre types de dispositifs groupaux, que sont la pensée inductive, la pensée déductive, la pensée analytico-synthétique et la pensée divergente. Voilà, ces groupes se sont inspirés des réflexions taxonomiques qui étaient celles de Louis Desnos, par exemple, et la notion d'opération mentale n'y est pas prise au sens des sciences cognitives ou des neurosciences d'aujourd'hui, mais plutôt au sens d'une hypothèse sur ce qui doit se travailler dans la tête de l'élève quand il aborde le savoir qu'on lui propose de s'approprier. Et cette hypothèse sert d'interface pour construire le dispositif d'apprentissage approprié. Voilà. J'ai découvert relativement récemment, j'ai découvert il y a une dizaine d'années, simplement, donc longtemps après ma thèse, des travaux d'un collègue américain, d'un collègue que je trouve extrêmement intéressant, qui s'appelle Elliot Aronson, qui renvoie de manière très proche à ce que j'ai fait. J'ignorais ses travaux et je pense qu'il ignorait les miens, qu'il ignore les miens. Elliot Aronson a travaillé au moment où les classes aux États-Unis ont été fusionnées, c'est la fin de l'apartheid, et on met dans les mêmes classes des élèves d'origine hispanique, des élèves d'origine africaine, des élèves d'origine amérindienne, et on demande à Aronson d'imaginer un dispositif didactique qui permettrait à ses élèves de communiquer, de faire en sorte que la classe ne soit pas simplement une juxtaposition de communautés qui s'ignorent. Et Aronson, à ce moment-là, avec son équipe d'étudiants, met en place un système qu'il appelle la classe puzzle, qui est un système que je trouve extrêmement intéressant, qui est très proche de ce que j'ai pu proposer. Il suggère que chaque enseignant doit diviser chaque leçon en 5 parties, que chacune de ces 5 parties doit être étudiée par un cinquième des élèves, qui devient en quelque sorte expert sur chacune des parties. Les élèves qui ont travaillé sur la même partie se regroupent pour confronter leur compréhension, et ensuite on crée des groupes puzzle où un élève spécialiste de la partie 1, un spécialiste de la partie 2, un spécialiste de la partie 3, de la partie 4 et de la partie 5 se regroupent pour élaborer un travail commun selon des consignes un peu précises. Alors, ce qui est intéressant dans le travail d'Aronson, c'est que contrairement à moi, il a pu mener avec son équipe d'étudiants, il a pu mener une étude longitudinale extrêmement longue sur 30 années pour observer les effets de cette pratique de la classe puzzle. Et il a montré que les effets étaient extrêmement intéressants et très positifs, à la fois sur le plan cognitif, sur le plan des apprentissages, et sur le plan des relations sociales, sur le plan socio-affectif. Alors, les travaux d'Aronson ne sont pas traduits en français. Je ne sais pas s'ils sont traduits en espagnol. Moi, j'ai traduit en français une partie des travaux d'Aronson que j'ai mis sur mon site. Donc, si vous allez sur mon site, merieux.com, vous trouvez un certain nombre de textes d'Eliot Aronson. Vous trouvez également une analyse comparée des fondements épistémologiques des propositions d'Aronson, qui est plus du côté de la psychologie sociale et psychosociologie, et des fondements épistémologiques de mes propres travaux qui sont plus du côté de la didactique générale et de l'épistémologie disciplinaire. Mais chacun de ces deux courants, celui d'Aronson et le mien, se rejoignent autour de propositions qui sont non pas identiques, mais qui renvoient à la même idée, à savoir que si on veut instituer la coopération, il faut l'organiser didactiquement et non pas laisser les individus que l'on met en situation de coopérer s'organiser librement, sans contrainte ni consigne.
Et la classe Poisson, ¿qué significa Poisson?
Un puzzle.
Se lee jigsaw, ¿no? En inglés, Aronson.
Jigsaw.
Sí. Aquí no está traducida su obra, pero en el aprendizaje cooperativo se basan mucho en la clase Poisson. Sí, conocemos a Aronson, que es el de
Jigsaw.
C'est traduit en espagnol, donc Aronson est traduit en espagnol.
No su obra, su obra no, pero sí que autores de aquí se refieren a...
D'accord, Aronson.
Se conoce. Aquí, aquí en catalán es el trencaclosques. Rompecabezas en español.
Sí, rompecabezas en español. Sí. Jigsaw en anglais. Moi, je n'ai connu les travaux d'Aronson qu'il y a une dizaine d'années. Et quand j'ai fait ma thèse, je ne connaissais pas encore, parce que ce n'était pas traduit en français, les travaux de Vygotsky. Or, la découverte des travaux de Vygotsky, que je ne cite pas dans ma thèse, puisque je ne disposais pas de traduction en français, vous savez que Piaget avait bloqué les traductions en français de Vygotsky, puisque Piaget était un homme qui avait beaucoup de qualités, mais qui avait aussi le défaut de vouloir être un peu impérialiste en matière de psychologie cognitive. Il n'aimait pas trop qu'on le contredise. Et il avait bloqué les traductions de Vygotsky en français. Il n'y avait que des traductions anglo-saxonnes de Vygotsky que je n'avais pas lues toutes et que j'avais approchées d'une manière assez superficielle. Mais quand j'ai rencontré les travaux de Vygotsky, en particulier quand ils ont été traduits en français par mes collègues de Genève, Brancard et Schnevely, qui sont des didacticiens l'un et l'autre d'ailleurs, eh bien, j'ai trouvé que, évidemment, les travaux de Vygotsky confortaient considérablement mes positions, dans la mesure où ils théorisaient d'une manière que je trouve tout à fait remarquable le passage de ce qu'il appelle l'interpersonnel à l'intrapersonnel, c'est-à-dire à une relation entre des personnes, à une relation qui se fait à l'intérieur de la personne et qui suscite un métabolisme qui est producteur d'apprentissage. Voilà.
Seguimos. Muchas veces se identifica las nuevas metodologías con que el docente tiene que tener un papel no directivo. ¿Qué opina de la no directividad, de esa ausencia de la figura del educador? Por ejemplo, en lo que estamos hablando, en un trabajo en grupo. ¿Qué opina usted?
Je pense qu'il y a un grand malentendu qui s'est développé depuis déjà de nombreuses années maintenant entre ce qu'on pourrait appeler l'éducation nouvelle et la non-directivité. Au congrès de Calais en 1921, qui est le congrès fondateur de la Ligue internationale de l'éducation nouvelle, où Adolphe Ferrière va prendre la direction de la Ligue internationale de l'éducation nouvelle, il y a effectivement un certain nombre de personnalités qui sont sur le principe, alors de ce qu'on n'appelait pas la non-directivité à l'époque, mais sur le principe d'une pédagogie libertaire. Il y a en particulier Neil, le fondateur de Libres Enfants de Summerhill. Mais Neil est minoritaire au sein de l'éducation nouvelle. Neil est minoritaire et quand vont apparaître des personnages qui ne sont pas encore à Calais en 1921, mais qui vont être très vite associés à l'éducation nouvelle, comme Célestin Freinet ou Maria Montessori, on va voir que ce n'est pas du tout sur le principe du maître libertaire et de la non-directivité que se développe l'éducation nouvelle. Au contraire, il me semble que ce qui caractérise l'éducation nouvelle, c'est la recherche de ce que j'appelle la contrainte féconde. L'éducation nouvelle refuse la contrainte arbitraire et inutile, refuse la contrainte normalisatrice, mais elle ne refuse pas la contrainte féconde qui est génératrice de normativité. Nous distinguons en France les deux mots normalisation et normativité. La normalisation renvoie à la reproduction du même. La normativité renvoie à l'élaboration d'une norme au service d'un projet collectif. Le biologiste Canguilhem, Georges Canguilhem, qui était à la fois un biologiste, un épistémologue et un philosophe, dit que la normalisation pourrait s'apparenter au cancer. La normalisation, c'est quand toutes les cellules sont complètement identiques. Et donc, d'une certaine manière, la normalisation, c'est la mort. Il n'y a plus de différence entre les personnes, tout le monde fait exactement la même chose et est traité exactement de la même manière. La normativité, dit-il, ça n'est pas l'absence de normes, c'est le fait que le vivant se donne des normes pour continuer à vivre et se développer. Et si on transpose ça en pédagogie, on va dire qu'une activité se donne des normes pour précisément pouvoir être effectuée et se développer. Et à cet égard, moi, je me suis beaucoup intéressé dans l'histoire de la pédagogie à un pédagogue que je trouve extrêmement intéressant, qui est Janusz Korczak, le pédagogue polonais, Janusz Korczak, qui est le premier à avoir rédigé une déclaration des droits de l'enfant en 1921, avant la déclaration de la Société des Nations, qui est le premier à avoir véritablement parlé du droit de l'enfant au respect, mais qui, simultanément, a toujours défendu l'idée de contrainte féconde, en expliquant que la spontanéité n'était pas la liberté. La spontanéité n'est pas la liberté. Quand l'enfant est spontané, ce qui parle, c'est ce que le psychanalyste appelle son corps primaire, ce sont ses pulsions, ce sont les stéréotypes que son environnement lui a communiqués et qu'il a intériorisés. Ça n'est que très rarement créateur, ça n'est que très rarement un dépassement de soi. Et j'ai pour ma part beaucoup travaillé sur cette notion de contrainte féconde, c'est-à-dire non pas identifier des contraintes simplement pour avoir la paix, pour être tranquille de la part de l'enseignant, mais les contraintes qui vont mettre les élèves en situation de se dépasser, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce qu'ils savent et d'acquérir des situations nouvelles. J'ai beaucoup travaillé, mon collègue connaît peut-être cela, avec des enseignants de français langue étrangère, qu'on appelle le FLE en France, et nous avons beaucoup travaillé avec eux sur les techniques d'un mouvement littéraire qui s'appelle l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, auquel ont appartenu des gens comme Queneau, etc., et Georges Perec. Et nous avons travaillé sur des techniques comme par exemple l'hypogramme. L'hypogramme consiste à faire écrire un texte en interdisant une lettre. Il y a un célèbre roman de Georges Perec qui s'appelle « La disparition » qui est écrit entièrement sans la lettre « e ». Eh bien, moi, j'ai beaucoup utilisé le lipogramme comme un exercice de recherche de vocabulaire. Quand on interdit l'utilisation d'une lettre, eh bien, on met l'élève ou la personne dans l'obligation de chercher des mots nouveaux qu'il ne connaît pas. Et donc, on est en face d'une contrainte féconde. Et donc, je pense que la question de la directivité ou de la non-directivité ne peut pas se poser ainsi. Il ne faut pas poser la question « faut-il être directif ou faut-il être non-directif ?» Il faut poser la question des contraintes inutiles et aliénantes d'un côté. Il y a des contraintes inutiles, aliénantes et normalisatrices et des contraintes fertiles, fécondes et émancipatrices de l'autre. Et donc, il faut analyser le type de contraintes que l'on propose dans un dispositif pédagogique ou didactique et à partir de ce type de contraintes, se demander s'il est facteur de développement et de dépassement ou s'il est facteur d'assujettissement des personnes. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des contraintes qui assujettissent, bien sûr il y en a, mais toutes les contraintes n'assujettissent pas, il y en a qui libèrent.
D'accord.
Okay. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis?
Oui, c'est très clair, très très bien, oui, merci. On continue.
El doctor Sylvain Connac investiga la introducción de las pedagogías cooperativas, cooperative, en clase. ¿Qué aporta la cooperación en clase para los estudiantes? ¿Qué aporta la cooperación?
Alors, avant de répondre à cette question, il faut peut-être préciser qu'est-ce qu'on met derrière le mot coopération. Moi, je distingue 7 niveaux de coopération.
Ok.
Je distingue 7 niveaux de coopération du plus simple au plus élaboré. Le premier niveau de coopération, c'est ce qu'on pourrait appeler l'entraide entre élèves.
Oui.
L'entraide entre élèves. C'est quand on demande à un élève d'expliquer ce qu'il a compris à un autre élève qui ne l'a pas vraiment compris. Je pense que c'est un premier niveau de coopération extrêmement intéressant et pas suffisamment utilisé, en tout cas en France. Parce que toutes les recherches montrent qu'à ce niveau de coopération, ce n'est pas simplement celui qui est aidé qui progresse, mais c'est aussi celui qui aide. Puisque d'une certaine façon, l'ignorance de celui qui est aidé permet à celui qui aide de mieux exprimer et de mieux formaliser son propre savoir. Et donc, on a là quelque chose d'extrêmement intéressant. Ce premier niveau de coopération, que j'appelle l'entraide, est un niveau qui peut se développer à travers des dispositifs comme le dispositif que l'on appelle chez nous des marchés de connaissances, que Sylvain Connac a développé, qui est simplement un dispositif d'entraide démultiplié. Dans le dispositif des marchés de connaissances, c'est de l'entraide entre individus, mais démultiplié à l'échelle d'une classe ou à l'échelle d'un groupe. C'est le premier niveau de coopération pour moi. Il ne faut pas le négliger, il est très important, et c'est un outil que je trouve extrêmement intéressant et trop peu utilisé dans les pratiques pédagogiques. Le deuxième niveau de coopération, c'est l'interrogation réciproque. Je pense que c'est un niveau qui, lui aussi, est extrêmement utile. Qui peut se pratiquer de manière extrêmement simple, quand dans la classe, on demande à chaque élève d'interroger le voisin pour savoir s'il a compris, et de se mettre à la place du professeur pour l'interroger. Je pense que l'interrogation réciproque est quelque chose de très très intéressant parce que ça oblige à un travail qui va faire chercher les questions, qui à bien des égards mettent l'autre en situation d'y répondre et qui sont les questions qui permettent de savoir si on a compris. C'est un niveau de coopération que moi j'ai pas mal développé dans mes pratiques, par exemple en demandant systématiquement aux élèves de fabriquer les exercices d'évaluation. Parce que la fabrique des exercices d'évaluation que l'on propose à l'autre, eh bien, permet de comprendre mieux sans doute que la simple révision ce que l'on a appris. Le troisième niveau de coopération, c'est le questionnement par la confrontation. C'est un niveau que développe beaucoup Sylvain Connac hein, et sur lequel il a travaillé particulièrement, qu'il privilégie. C'est le niveau dans lequel on pose une question à des élèves sur un sujet un peu compliqué, un peu difficile, et on les fait se confronter, échanger en quelque sorte leurs hypothèses, d'une certaine manière détruire réciproquement les hypothèses les uns des autres pour les rendre disponibles à un savoir qui va être ensuite proposé soit par l'enseignant, soit par le maître, soit par le manuel, soit par un texte, etc. C'est un niveau dans lequel il y a une coopération pour déstabiliser en quelque sorte les savoirs anciens et rendre l'élève disponible aux savoirs nouveaux. Déstabilisation des savoirs anciens pour rendre l'élève disponible aux savoirs nouveaux. Si vous êtes entretenu avec Sylvain Connac, il vous a sans doute parlé de ça, parce que c'est quelque chose sur quoi il a beaucoup travaillé et c'est un type de coopération qu'il a particulièrement étudié. Il y a d'ailleurs un petit débat entre nous et avec les universitaires français. Un certain nombre de personnes considèrent que cette forme de coopération n'est qu'une forme de coopération c'est un prolégomène, un préliminaire, dans la mesure où elle suppose que après que les élèves se soient confrontés et détruits en quelque sorte leurs hypothèses respectives, c'est l'enseignant qui va lui-même donner la réponse. Okay. C'est le troisième niveau. Le quatrième niveau de coopération, c'est celui de la correction réciproque. C'est un niveau ou de la correction interactive plutôt que réciproque, parce que le terme de correction réciproque signifie qu'il n'y a que deux personnes, le terme de correction interactive signifie qu'il y en a plusieurs. Ça, c'est quelque chose qui a été très, très construit par Célestin Freinet, par exemple. Hein. Quand Célestin Freinet fait élaborer par ses élèves des textes libres, il demande à chaque élève de venir au tableau, d'écrire au tableau son texte, et puis le maître se tourne vers la classe et demande aux autres élèves « Qu'est-ce que vous pensez de ce texte libre? Qu'est-ce que vous corrigeriez ?» Et les élèves proposent, certains disent « Il faut ajouter un adjectif, d'autres il faut enlever une virgule, d'autres il faut rajouter ceci, d'autres il faut rajouter cela. » Évidemment, l'élève qui a fait le texte ne doit pas obéir aux injonctions de ses camarades. Il doit se poser la question de savoir si les propositions de ses camarades sont utiles pour améliorer son texte ou non. C'est-à-dire que ce qui est important là, ça, c'est ce qui va se passer dans la tête de l'élève qui a fait le texte et qui va intérioriser, en quelque sorte, les objections de ses camarades, les comprendre et les utiliser si elles l'aident à améliorer sa performance. On est là devant une forme de coopération que je trouve extrêmement intéressante, trop peu utilisée dans l'enseignement, utilisée à l'université, dans des séminaires de doctorat ou des choses comme ça. Moi, j'ai beaucoup utilisé cela, par exemple, avec mes thésards. Eh bien, un thésard proposait l'introduction de sa thèse ou un chapitre de sa thèse, tout le groupe travaillait dessus, et puis on lui posait des questions, on lui faisait des propositions et on lui suggérait des choses qu'il prenait ou qu'il ne prenait pas. Mmh. Hein? Et là, on a quelque chose où on a un dispositif de vraie coopération, parce qu'on a un dispositif où les autres vont m'aider à améliorer, moi, ce que j'ai fait, et en même temps, en s'interrogeant sur ce que j'ai fait, les autres vont progresser. Hein. Et donc, on a un dispositif de coopération très, très efficace. Le cinquième niveau de coopération, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure avec vous sous forme de la classe puzzle. Alors, la classe puzzle sous toutes ses formes, jigsaw, voilà, comme vous le disiez. Par exemple, moi, j'ai beaucoup utilisé le fait de prendre un texte littéraire, de découper toutes les phrases, de les découper avec des ciseaux, de distribuer ces phrases en désordre à un groupe d'élèves, de placer la première phrase au milieu de la table, et de demander aux élèves de reconstituer le texte, chacun devant placer ses phrases. Et donc là, on est obligé de coopérer aussi. Hein. Il faut bien que le texte veuille dire quelque chose. C'est la classe puzzle, celle que moi je l'ai proposée ainsi, mais Elliot Aronson, dont on parlait tout à l'heure, l'a proposée à sa manière. Le sixième niveau de coopération, c'est celui qu'on pourrait renvoyer, enfin c'est celui qui est très bien décrit aussi par Célestin Freinet quand il parle de la question du conseil d'élèves. Le conseil d'élèves. Le conseil d'élèves, c'est une réunion d'élèves qui, avec un rituel et un protocole extrêmement précis, avec un président de séance, un secrétaire, va examiner un certain nombre de questions. Ce conseil d'élèves, il peut exister dans les classes coopératives. Moi, j'ai utilisé cette technique et elle est fréquemment utilisée dans ce que nous appelons en France des ateliers philo avec les enfants. L'atelier philo, c'est un atelier dans lequel on donne un thème aux enfants. On le donne 3 ou 4 jours avant pour qu'ils puissent y réfléchir. On donne un thème aux enfants, je ne sais pas quelle est la différence entre l'amitié et l'amour, un thème comme ça, voilà. Et on dit aux enfants, vous allez y réfléchir, et ensuite on organise un débat, mais un débat qui est très organisé. Il faut qu'il y ait un président de séance, il faut que les élèves ne se coupent pas la parole, il faut qu'ils démontrent leur point de vue, il faut que régulièrement, s'ils contredisent un point de vue inverse, ils le reformulent pour être bien sûr de l'avoir compris. Il faut que le maître fasse des pauses régulières pour dire ce qui est stabilisé, ce qui est objet de désaccord, etc. Et là, on est devant une forme de coopération, qui est aussi une forme de coopération extrêmement importante, qui aide à penser, qui aide à réfléchir. Et puis, la septième forme de coopération, et qui va me renvoyer d'ailleurs à la suite de votre question, c'est ce que nous appelons en France l'inclusion scolaire ou l'école inclusive. Alors, est-ce que vous avez ce terme en espagnol? Je pense que oui, puisque je suis venu moi-même à Madrid, je crois, faire une conférence sur cette question. L'école inclusive, c'est un niveau très élevé de coopération, puisqu'on fait l'hypothèse que cette coopération peut avoir lieu, y compris entre des élèves ayant des différences considérables de niveau, voire avec certains élèves qui ont des handicaps, et des handicaps lourds. Alors, l'inclusion, ça n'est pas simplement le fait de mettre un élève handicapé dans une classe avec des élèves ordinaires. L'inclusion, c'est d'organiser des activités dans lesquelles ces élèves porteurs de handicap peuvent participer comme les autres. Ce qui est compliqué, ce qui est difficile. On peut, moi j'ai fait par exemple du théâtre avec des élèves ordinaires et des élèves autistes. J'ai monté un orchestre de percussion avec des élèves porteurs de handicap très lourds, différents, mais qui ont réussi à faire un orchestre ensemble. Mais il faut savoir que c'est un vrai enjeu et que l'idée d'école inclusive qui consiste à intégrer tous les enfants est une idée extrêmement ambitieuse, extrêmement ambitieuse. Il faut non seulement les intégrer au sens physique, qu'ils soient présents dans l'école et dans la classe, mais il faut les intégrer aux activités qui se déroulent dans l'école et dans la classe. Ce qui est un enjeu très compliqué et très important, qui nous renvoie à la suite de votre question, bien sûr, qui est la pédagogie différenciée. C'est-à-dire que ce niveau de coopération suppose que l'on différencie les aides et les soutiens, les formes d'accompagnement pour que chaque élève puisse participer au collectif. Il ne peut y avoir de coopération entre des élèves ayant des différences extrêmement fortes que s'il y a une approche un peu personnalisée qui permet à chacun de s'impliquer dans le groupe. Voilà. Et donc là, on en vient à cette notion de pédagogie différenciée à tous les niveaux possibles, hein. Ça peut être simplement qu'il y ait des exercices différents selon les élèves ou que certains élèves bénéficient de quelqu'un qui va les aider pour qu'ils participent au groupe. Et donc, si je me suis permis de vous donner ces sept niveaux de coopération, c'est pour vous dire que ces sept niveaux de coopération permettent de créer dans la classe et d'atteindre dans la classe un double objectif que j'ai évoqué tout à l'heure à propos d'Aronson, un objectif cognitif qui au fond renvoie à ce que Piaget et Vygotsky ont approfondi chacun à leur manière, c'est-à-dire la construction de l'intelligence par l'intériorisation de la socialité, hein. C'est le psychologue français Henri Vallon qui disait « l'intelligence est la socialité intériorisée », un objectif cognitif, un objectif psycho-affectif qui est la capacité qu'a chacun à respecter l'autre, etc., etc., et un objectif qui est un objectif, au fond, politique, qui est la capacité que l'on va progressivement donner aux élèves de construire le bien commun. Voilà, construire le bien commun qui dépasse la simple juxtaposition des intérêts individuels. Donc un objectif cognitif, intériorisation, comme le dit Vygotsky, de l'interlocution d'autrui et richesse et enrichissement. Objectif socio-affectif, c'est-à-dire objectif qui permet d'améliorer les rapports entre les élèves, et objectif politique au sens le plus fort du terme, c'est une anticipation d'une forme de collectif dans lequel les individus ne sont pas en rivalité les uns avec les autres, mais sont en situation de coopération, et plutôt que de juxtaposer leur personnalité et leurs intérêts individuels, ils acceptent ensemble de se réunir pour travailler et pour construire le bien commun. Et je pense que la pédagogie coopérative vise ces trois objectifs, cognitif, psychosocial et politique. Okay. Est-ce que c'est clair?
Oui, je peux intervenir. Monsieur Mérieux, oui. Souvent, je vais revenir sur le point numéro 6, sur le conseil d'élèves, avec des protocoles précis, etc. D'accord. Souvent dans l'enseignement, donc dans les classes, on a comme objectif, justement, on privilégie le résultat de l'activité sur tous les protocoles de construction, etc. Donc pour vous, ce qui est important, chez les élèves, c'est justement cette construction coopérative, beaucoup plus que en fait le résultat, c'est-à-dire quelle différence il y a entre l'amour et l'amitié. Donc, ce n'est pas le résultat qui intéresse, c'est davantage la construction de toute une argumentation, développement, etc.
Absolument. C'est la même chose que quand je dis à des élèves, vous allez faire un texte ensemble, ou vous allez faire un panneau pour décrire un papillon ou un pays d'Afrique. Si je privilégie la tâche, je vais vers la division du travail que j'ai dénoncée tout à l'heure. En situation scolaire, et ce qui définit le groupe scolaire, ce que moi j'ai appelé dans mes travaux le groupe d'apprentissage par rapport au groupe de production, c'est le fait que c'est l'objectif qui est privilégié et pas la tâche. C'est l'objectif, c'est-à-dire le progrès de chacun. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des groupes de production dans la vie sociale, hein, dans un atelier de mécanique, eh bien, le mécanicien, le peintre, le fraiseur vont chacun faire ce qu'ils savent déjà faire. Mais ça, c'est une situation de production. Dans la situation d'apprentissage, la situation scolaire, le groupe que moi j'ai appelé le groupe d'apprentissage, qui se spécifie en tant que tel, est un groupe qui équilibre en permanence la centration sur la tâche qui finalise et la centration sur les progrès individuels qui permettent de vectoriser les démarches de chacun d'entre eux. Et donc, je distingue très fortement la tâche et l'objectif. D'ailleurs, c'est une distinction qui, à mon avis, dépasse la question de la coopération. Quand je demande à un élève de faire un devoir pour attester qu'il a compris quelque chose, je lui demande une tâche, mais ce qui est important, c'est l'objectif qu'il a atteint dans sa tête. C'est-à-dire, c'est la réalité de ce qu'il a construit. C'est la distinction que fait Noam Chomsky entre performance et compétence. La performance, elle est visible, la compétence, elle est intérieure. Et j'entends ici le mot compétence, non pas du tout au sens des compétences behavioristes, hein, mais au sens de la compétence chomskienne, la compétence linguistique.
Merci.
Sí. Yo tengo una pregunta, profesor. A la Universidad de Montpellier, Paul Valéry, estuve en una de las clases del doctor Sylvain Cognac, que hizo una DVDP, Discussion avisée démocratique et philosophique de Michel Tozzi, de argumentation, problématisation, conceptualisation. Lo que se produce dentro de la DVDP, ¿se podría decir también que es cooperar?
Oui, oui. C'est, dès lors qu'il y a un protocole qui est respecté, nous sommes dans la forme numéro 6, hein, dans le niveau numéro 6 que j'ai indiqué.
Hein,
je vous ai indiqué les 7 niveaux. Ça, c'est un exemple du niveau numéro 6.
Ok. Okay. Parfait. Merci.
Sí, de pedagogies diferenciades, creus que, perquè hi ha no, un tros ja que està, ja està. O hi ha un tros ja que està. No, d'acord. Ha publicado un nuevo libro, Diccionario inatendu de pedagogía. ¿Con qué principios de las corrientes pedagógicas se siente usted más identificado?
C'est difficile comme question. Ce livre, Dictionnaire inattendu de pédagogie, est un texte que j'ai voulu faire pour dégager la réflexion éducative de la seule réflexion scolaire. Je pense qu'il y a une confusion en France entre éducation et scolarisation. Éducation et scolarisation. Je pense qu'on ignore beaucoup trop l'importance de l'éducation familiale, l'importance de l'éducation par les pairs, de l'éducation associative. Je pense qu'on néglige beaucoup trop l'importance des médias. On néglige beaucoup trop l'importance de l'environnement technologique, le téléphone portable, hein, etc. On néglige beaucoup trop cela et on ne traite